on m'a demandé de faire une présentation d'un des pères fondateurs des États africains, Félix Houphouët-Boigny. Donc Houphouët-Boigny avait cette tête quand il était beaucoup plus jeune. Et ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est à la fois de restituer une histoire, l'histoire d'un homme politique, de le comprendre dans son contexte, mais aussi de le comprendre hors de son contexte. C'est-à-dire, pour un historien, l'intérêt de redécouvrir Houphouët-Boigny, c'est de le redécouvrir après l'avoir vu avec trois héritiers. Henri Conan Bédié, Roland Gbagbo et aujourd'hui Alassane Ouattara. Et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé après sa mort pour pouvoir effectivement lire son héritage. Quel est l'héritage que Houphouët-Boigny a laissé? Et lire cet héritage, c'est précisément comprendre la démarche qui a été au cœur de son action politique. Mais avant de commencer cette conférence, je voudrais la dédier à un ami et collègue, un Ivoirien, qui était professeur de sciences politiques à l'Université Laval au Canada, qui s'appelait Tessy Bakary. Et Tessy Bakary s'est intéressé effectivement à l'histoire de la Côte d'Ivoire, à la politique de la Côte d'Ivoire. Elle a écrit deux livres, qui sont deux livres très, très importants. Le premier livre s'appelle Côte d'Ivoire, et le titre est important, le sous-titre est important, parce que ça s'appelle Côte d'Ivoire, une succession impossible. Et ça a été écrit en 1991. Et l'année d'après, il a écrit un autre livre qui s'appelle Côte d'Ivoire, la démocratie par le haut en Côte d'Ivoire, 1992. Il a écrit aussi plusieurs articles, notamment sur les questions liées à la formation de l'élite ivoirienne. Et dans ses études, il s'est en particulier intéressé à la composition ethnique du PDCI, à la composition ethnique de la haute administration sous Houphouët-Boigny. Pourquoi je voulais dédier précisément cette conférence à Tessy Bakary? Parce que c'était non seulement un intellectuel, mais aussi c'était un dandy, un des rares dans ma génération qui admirait, pour des raisons assez compliquées, Houphouët-Boigny. Parce que ma génération est une génération qui a passé une partie de sa jeunesse à effectivement critiquer les pères fondateurs. Et lui, au contraire, ce qui l'intéressait, c'est de comprendre comment ces pères fondateurs avaient créé ou avaient essayé de créer des nations. Donc, la lecture que je vais vous proposer aujourd'hui, qui ne va pas épuiser effectivement la vie de Félix Houphouët-Boigny, est une lecture qui tente de comprendre, d'identifier une trajectoire, un itinéraire, l'itinéraire de Félix Houphouët-Boigny. Et cet itinéraire, il en a lui-même parlé. Lors du cinquantenaire de la fondation du Rassemblement démocratique africain, le RDA, le parti régional qu'il avait créé en 1946, il a parlé longuement de cette œuvre qui est la sienne. Mais il y a aussi une énorme littérature sur Houphouët-Boigny, une littérature produite par ses hagiographes, une littérature produite par des journalistes français qui ont énormément écrit sur Houphouët-Boigny, mais une littérature aussi écrite par ses détracteurs, détracteurs anglophones, détracteurs francophones. L'un des livres les plus importants, ou les deux livres les plus importants, c'est le livre de Amondji sur Houphouët-Boigny, mais aussi le livre de Samir Amin sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est intéressant. L'histoire, l'itinéraire de Houphouët-Boigny est un itinéraire qui se confond à la biographie de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, c'est la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le café et le cacao. On ne peut pas comprendre Houphouët-Boigny si on ne comprend pas l'histoire du café et du cacao. Le miracle ivoirien s'est construit sur le cacao entre 1950 et 1985. La chute de la Côte d'Ivoire se construit aussi sur la chute, suit la chute du cours du cacao sur le marché mondial. Et c'est cette extraordinaire coïncidence, juxtaposition entre l'histoire d'un homme, l'histoire d'un pays et l'histoire d'un produit que je vais essayer de raconter. Et cette histoire a permis à Houphouët-Boigny lui-même de construire son image à lui. Un homme de paix et de dialogue, un Africain qui est capable de conjuguer le présent et le passé, un Africain qui est responsable, qui est respectueux des traditions, mais qui est aussi un innovateur. Donc Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, meurt le 17 décembre 1993. Il a 88 ans. Il fut un acteur de premier plan sur la scène politique et économique de l'Empire français. Tour à tour, leader du syndicat des planteurs ivoiriens, membre fondateur du Rassemblement démocratique africain, le parti fédéral couvrant l'ensemble des colonies de l'Afrique de l'Ouest, député affilié au groupe parlementaire communiste à l'Assemblée française, avocat infatigable de l'abolition du travail forcé, plusieurs fois ministre sous la IVe République, il demeura jusqu'à la fin de sa vie le défenseur intransigeant de la coopération entre la France et ses anciennes colonies et de la politique économique et culturelle française en Afrique, l'apôtre inspiré de l'amitié franco-africaine. On le soupçonne d'avoir créé, en fait, le terme France-Afrique qui est devenu si populaire en France aujourd'hui. Il avait l'oreille des présidents français et savait, comme dit Jacques Foccart, en abuser, tout en soutenant résolument leur cause sur la scène internationale, comme en témoigne par exemple le soutien à la cause biafraise durant la guerre civile. Il a été l'un des rares présidents africains à soutenir la sécession du Biafra, parce que tous les autres chefs d'État africains ont respecté le principe qui avait été adopté, qui a été le principe de l'intangibilité des frontières. Mais de Gaulle était pour cette cause-là, avant. Il a aussi soutenu l'UNITA, le mouvement de Jonas Savimbi. Il a soutenu discrètement l'État d'Israël, malgré les condamnations de l'Organisation de l'Unité africaine en 1967 et en 1973. Et il a traîné les pieds en ce qui concerne le boycott décidé par l'OUA de l'Afrique du Sud raciste. Donc, je disais tout à l'heure que les deux ressources qui ont alimenté, j'ai parlé de l'une de ces ressources, les deux ressources qui ont alimenté le miracle ivoirien, entretenu et alimenté le miracle économique ivoirien, c'est l'agriculture et la migration. Et je vais justement revenir sur cette migration parce qu'elle va être essentielle et dans la construction du pouvoir politique et économique de Houphouët-Boigny, mais aussi dans la déconstruction, en fait, de la Côte d'Ivoire après sa mort. Mais elles constituèrent effectivement les deux piliers de la philosophie politique de Félix Houphouët-Boigny. Elles célèbrent le paysan, l'enracinement dans le terroir villageois, le travail, l'unité, la discipline, l'hospitalité, la paix et la concorde nationale. Autant de concepts qu'on retrouve dans les discours de Houphouët-Boigny et dans ses écrits. Et en fait, cette philosophie tenta d'inventer une communauté politique stable dans laquelle les migrants avaient le droit de vote pour faire face à l'altération de l'architecture démographique et de la géographie économique, politique, culturelle et religieuse provoquée par le miracle ivoirien. Aujourd'hui, ces deux piliers s'effondrent. C'est cette situation même qui continue d'alimenter les cycles d'une rare violence qui secoue la Côte d'Ivoire depuis la mort d'Ophé Boigny. Les baisses des coûts du café et du cacao au début des années 80, la profonde dépression de l'économie ivoirienne, l'application des programmes d'ajustement structurel, et je reviens sur cette question ethnique et j'y reviendrai, par un premier ministre originaire du nord de la Côte d'Ivoire, et le desserrement de l'étau du parti unique et la démocratisation de l'espace public, ajouté à la maladie du président ivoirien. On soupçonne qu'en 1985, il ne voit plus très bien, que la cataracte l'a presque rendu aveugle. Se conjuguèrent pour progressivement avoir raison du miracle ivoirien. Et en fait, l'évanouissement progressif de ce miracle laisse place aux chimères criminelles de l'autochtonie et du tribalisme, l'ivoirité. Laisse place aussi à la xénophobie et la violence politique généralisée. Et cette question, elle est importante pour ça, justement. C'est-à-dire le passage d'une situation qui semble être une situation, et je vais y revenir, qui repose sur des arrangements ethniques, à une situation où le désir de compter les Ivoiriens et d'exclure les migrants, mais aussi tous les gens qui ressemblent à ces migrants. Exclure l'ensemble des Ivoiriens qui vivent dans le nord de la Côte d'Ivoire et qui semblent partager, disons, une culture et une religion avec les migrants, qui sont les migrants qui viennent souvent de l'espace sahélien musulman. C'est cela qui crée des situations, en fait, qui sont des situations qui montent. En particulier, quelqu'un comme Bédier, et ça je vais y revenir, est quelqu'un qui ne représente pas, en fait. Il n'est pas l'héritier de Félix Houphouët-Boigny. Et je vais montrer, en insistant sur ce que Houphouët-Boigny a réalisé, pourquoi la notion d'ivoirité portée par Bédier est l'illustration la plus parfaite que Bédier n'a pas compris. Le projet de Houphouët-Boigny. Interpréter la biographie et l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire, justement, offre, me semble-t-il, un site d'observation pour mieux comprendre les trajectoires politiques et personnelles observables aujourd'hui en Afrique. Comprendre Houphouët-Boigny à la lumière de l'épopée sanglante et frivole de la présidence de Gbagbo, c'est se donner une nouvelle chance pour interpréter le projet des pères fondateurs des nations africaines. En effet, lorsque le premier président ivoirien quitte la scène, il laisse derrière lui un héritage de haine et de violence qui alimente pendant 18 ans la lente descente aux enfers de la Côte d'Ivoire, clôturant définitivement la séquence miraculeuse. Les acteurs de cette tragédie signalent avec une précision désarmante l'échec du projet ivoirien de construction nationale et l'approfondissement des clivages ethniques. Henri Konan Bédier, le Baoulé du centre-est, Laurent Gbagbo, le Bété de l'ouest, Alassane Dramane Ouattara, le Djoula musulman du nord, et Guillaume Soro, un sénoufo chrétien du nord. Et ce qui est intéressant, c'est précisément ce qu'on pourrait appeler les caractérisations ethniques, qui sont effectivement des représentations plus qu'une réalité. Gbagbo est chrétien, il a deux femmes. Ce qui est assez extraordinaire. Ouattara est censé être musulman, on pourrait dire des tas de choses sur sa vie. Cela veut dire que ces notions n'ont plus aucun sens dans la réalité des gens qui semblent les symboliser. Et c'est cela qui montre dans une certaine mesure, l'échec du projet de Félix Houphouët-Boigny. Parce que ce que Houphouët-Boigny a tenté de faire, et c'est sur ça que je vais insister, c'est d'avoir pensé créer une nation ivoirienne dans laquelle les Baoulés seraient, si vous voulez, un épicentre. Et autour des Baoulés se forgeraient des alliances, des alliances qui permettraient effectivement de faire fonctionner un arrangement qui est un arrangement de type ethnique. Et les Baoulés étaient très bien placés pour le faire, pour des raisons à la fois géographiques. Ils sont au centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme si toutes les autres ethnies s'étaient installées autour d'eux. Et ça, ça va jouer un rôle. Mais historiquement aussi, les Baoulés sont comme les Wolofs du Sénégal. Ce sont deux ethnies qui sont des ethnies opportunistes. Et que l'opportunisme est une bonne chose chez eux parce que l'opportunisme leur a permis de négocier cette espèce d'hégémonie qu'elles ont acquise. Une hégémonie politique, et pour les Baoulés, je vais y revenir, ça commence avec la période précoloniale, mais aussi pour les Wolofs, où la religion, la chrétienté joue un rôle important, mais aussi c'est cette possibilité qu'offre le rapport à la France et le rapport au système colonial, qui est aussi important. Donc ce que je voudrais dire, et ça c'est l'une des premières conclusions que je vais vous proposer, c'est qu'en fait, cette tragédie que j'ai schématisée dans cette introduction est une tragédie en trois épisodes. Et le journaliste anglais Kate Whitman dit que c'est une tragédie en trois épisodes qui mettent en scène les trois morts de Félix Houphouët-Boigny. Sa mort réelle, décembre 1993. Sa seconde mort, le coup d'État militaire, décembre 1999. Et sa troisième mort, le coup d'État manqué de 2002 et la division de la Côte d'Ivoire en deux, au milieu. Et j'ai déjà mentionné cela, il existe une très abondante littérature sur Félix Houphouët-Boigny. Et quand j'ai commencé à préparer cette présentation, il y a une année que j'ai commencé à lire, j'ai été surpris de trouver qu'entre les 1959 et 1968-70, il y a une énorme littérature en anglais sur Félix Houphouët-Boigny. Il y a des livres, il y a des articles. Et en particulier les Américains, des spécialistes de sciences politiques, s'intéressent à la construction des nouvelles nations africaines. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Et l'un d'eux en particulier, Zolberg, Aristide, va publier un livre, One Party System in Ivory Coast, le parti unique en Côte d'Ivoire, en 1964. Et dans ce livre, déjà, Zolberg fait l'hypothèse d'un coup d'État après la mort de Houphouët-Boigny. Et ce qui fait l'intérêt du travail de Zolberg, c'est que Zolberg a discuté non seulement avec les politiciens des années 50 et 60, mais Zolberg a parlé à Houphouët-Boigny. C'est peut-être l'un des rares spécialistes de sciences politiques à qui Houphouët a parlé et parlé longuement de son projet, de sa façon de conduire le parti, de sa façon de conduire l'État au moment de l'indépendance. Mais il y a aussi une abondante littérature en français. Et cette abondante littérature est une littérature qui porte sur la Côte d'Ivoire, qui porte sur l'ethnicité. Et c'est intéressant de noter que cette littérature a été produite par une génération, en fait, d'anthropologues qui sont devenus, en fait, les anthropologues français marxistes des années 70, et qui sont encore aujourd'hui les grands anthropologues. Et il y a une autre littérature, qui est la littérature africaine. Et je voudrais parler précisément d'un de ces écrivains, qui est ivoirien, qui a écrit 5 romans. Et dans les 5 romans, il y a Houphouët-Boigny. Ou bien il y a un personnage qui ressemble à Houphouët-Boigny. C'est Amadou Kourouma. Et Lire, en fait, Amadou Kourouma, c'est réaliser que Oufé Boigny, c'est d'abord une voix singulière, avec ses intonations nasillardes bien choisies, une rythmique qui affiche la sérénité, la paix et la présence dans une territorialité double, territorialité africaine, mais aussi territorialité de l'Empire français. Une voix que les textes hagiographiques ou dénonciateurs se sont évertués à gommer ou à accentuer. Amadou Kourouma la recrée admirablement dans tous ses romans. Et dans un article intitulé « Une histoire fictive de la Côte d'Ivoire », une chercheuse américaine, s'appelle Carol Coates, présente ainsi, disons, le travail de Kourouma sur celui que Kourouma a appelé « Oufoué ». Et quand on écrit ça, on mettrait à la fin, au lieu d'un ET, on mettrait un AI. Foufoué. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est au fond la manière dont Kourouma montre Oufé Boigny. Il le montre toujours en vilain. Et il insiste sur le fait que Oufé est un dictateur qui procède à des arrestations arbitraires, à des tortures et à des exécutions. C'est en fait le soleil des indépendances. Il présente aussi une histoire de la Côte d'Ivoire, de la colonisation aux années 80 dans Monnaie, Outrage et Défi, en brossant un portrait très peu déguisé de Oufé Boigny. Et ce portrait, en fait, on le retrouve surtout en lisant. Le texte est écrit de telle sorte que les mots semblent reconstituer, si vous voulez, la voix de Oufoué. Dans Allah n'est pas obligé, il accuse Oufoué d'être intervenu en soutenant Charles Taylor dans la guerre civile au Biafra, au Libéria. Et ça aussi, c'est un élément qui est un élément important. Et surtout en attendant le vote des Bêtes sauvages, un autre roman, Oufoué apparaît sous les traits de Tchekoroni. Et là aussi, il est accusé de, en fait, négocier avec les chefs rebelles. Dans son dernier roman posthume, Quand on refuse, on dit non, Amadou Kourouma décrit le président Félix Houphouët-Boigny dans un rôle de vilain, le vilain de l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire indépendante. Dans ce roman inachevé qui s'intéresse à la guerre civile qui a ravagé la Côte d'Ivoire en 2002, sous la présidence de Laurent Gbagbo, où Kourouma affirme que l'histoire de la Côte d'Ivoire se confond avec la biographie de Félix Houphouët-Boigny. Et Kourouma n'hésite pas à associer légende, histoire, non confirmée et faits historiques avérés pour composer justement un portrait d'un système qui est un système, selon lui, le système corrompu et sans scrupules de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est cette conjonction de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la biographie de Houphouët-Boigny que Kourouma brosse ainsi. Et je cite, les planteurs du Sud sont victimes de graves discriminations. Ils n'ont pas droit à la main-d'œuvre venue du Nord grâce au système de travaux forcés imposés par les Français. Pendant la période de la guerre, 39-45, le cacao n'était pas acheté. Il pourrissait sur les arbres. L'administration coloniale paya la production des Européens pour la détruire ensuite. Le planteur africain n'a eu droit à aucune compensation. Pour survivre, les planteurs africains décidèrent de créer un syndicat agricole. Dès que l'autorisation en fut donnée aux colonisés, ils mirent à la tête de ce syndicat Félix Houphouët-Boigny. À partir de cette date, l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est toujours Kourouma qui parle, se confond avec l'histoire personnelle de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est dans son roman, dans son dernier roman posthume, Quand on refuse, on dit tout. Je n'ai pas le talent de Kourouma et je ne suis pas ivoirien. Mais je me suis évertué à suivre sa démarche qui vise à comprendre et à rendre compte d'une histoire personnelle, celle de Félix Houphouët-Boigny, qui se confond avec l'histoire d'un pays, la Côte d'Ivoire, j'ai déjà dit, et d'un produit, le cacao. Mais inviter un Sénégalais à présenter l'itinéraire de Oufé-Boigny présente certains avantages. Et je pense qu'un Sénégalais serait peut-être mieux adapté, et un Ivoirien mieux adapté pour parler de Senghor probablement. Et pourquoi un Sénégalais serait le mieux adapté dans le cadre du centenaire de la célébration des indépendances africaines? Précisément parce que Oufé-Boigny a entretenu des relations d'une très grande complexité avec le Sénégal et les Sénégalais, en particulier le premier président Léopold Sédar Senghor. Des relations qui ont circonscrit un territoire de connivence, de coopération, mais aussi de compétition incomparable. Léopold Sédar Senghor était son adversaire politique intime. Et comme pour s'écarter de ce dernier, et ça aussi c'est quelque chose de très important à comprendre quand on parle de Oufé-Boigny, c'est qu'on lui prête une confidence, qui serait une confidence qu'il aurait en fait dite au début des années 50, pour préciser son identité, une identité de vrai Africain, avec comme référence Senghor. Il aurait dit à un journaliste, il y a deux types d'Africains. Des Africains qui retournent de France à 40 ans et des Africains qui arrivent en France pour la première fois à 40 ans. Donc vous voyez, celui qui revient en Afrique, c'est bien sûr Senghor. Celui qui arrive en France, c'est lui-même. Et l'idée, c'est précisément que lui est un Africain traditionnel. Mais le contenu qu'il met dans tradition est peut-être la chose la plus intéressante. Et il est possible de retourner à Oufé-Boigny le même compliment qu'il faisait à Senghor, en disant il y a des Africains qui quittent le pouvoir à 70 ans. Et des Africains qui meurent au pouvoir. C'est-à-dire pour décider des deux qui est le plus africain, il serait intéressant de jouer cela. Donc ça, c'est la première, si vous voulez, connivence, la première relation avec le Sénégal. La deuxième relation avec le Sénégal, c'est qu'Oufé-Boigny est allé à fréquenter l'école normale William Ponty de Gorée. Et après l'école normale William Ponty, il a fait ses études de médecine à l'école de médecine de Dakar. Et ce passage au Sénégal est important parce que ce passage détermine probablement son rapport à l'islam et son rapport aux musulmans. C'est probablement le premier moment où Oufé-Boigny sort du milieu dans lequel il a grandi. Il avait déjà commencé quand il est parti à Bingerville à 11 ans pour faire ses études, pour continuer ses études. Mais à Bingerville, il ne rencontre pas beaucoup de musulmans. Au Sénégal, il rencontre une société majoritairement musulmane. Donc, il se forge une relation à l'islam qui va jouer un très, très grand rôle dans sa vie politique. Mais aussi, la première femme de Oufoué est, du moins, le père de la première femme de Oufoué est d'origine sénégalaise. Cette femme s'appelle Hadi Sow. Et semble-t-il, quand Oufoué est mort, les gens ont commencé à se poser la question, est-ce la seule femme qu'il ait jamais légalement épousée, même si Thérèse est devenue la femme qu'on a vue pendant très très longtemps à côté de Oufé-Boigny. Donc, mais cette femme a constamment été présente dans la... Et cette femme est la mère des enfants de Oufoué. Et le rapport que Oufoué va en tenir avec la succession est aussi important probablement à cause de ça. Si l'actuel président sénégalais se démène pour mettre son fils, il y a très peu de gens qui peuvent vous dire exactement qui est ou qui sont les fils de Oufoué. Ils ne connaissent pas. Et cela est important dans la construction, justement, de l'identité d'Oufoué. Mais ce qui est important, c'est ce que ce mariage indique. Un chef baoulé épouse une métisse sénégalo-agni. La mère de Hadi Sow est agni, est une princesse agni. Et son frère était précisément le chef, disons, des agni. Et ceci aussi... quelque chose d'important, parce qu'il vivait dans cette région. C'est quand il a été affecté à Bengourou comme médecin qu'il va rencontrer cette femme qu'il a épousée. Donc, ce rapport à l'islam est très vite demeuré chez Oufoué, un rapport très apaisé et coopératif. Et en cela, Oufoué est différent de ses successeurs. Et cette différence, elle est importante dans la construction du pouvoir. Et la troisième chose, son rapport avec les Sénégalais, c'est le fait que ses héritiers matrilinéaires ont un nom distinctivement sénégalais, Thiam. Et cela est aussi important. Pourquoi cela est important? Parce qu'il donne une indication de la manière dont Oufoué négocie son identité ethnique. Et j'insiste sur ce mot « négocier l'identité ethnique ». Et pour plusieurs chercheurs, Félix Oufoué-Boigny porte, et ça on le voit ici, des costumes français de très très bonne facture. Il savait s'habiller en fait. Oufoué-Boigny se convertit au christianisme quand il est à Bingerville, donc quand il est au lycée. Il a abandonné la religion traditionnelle. Il a abandonné la langue. Il ne l'utilise pas beaucoup dans ses activités politiques. Il porte très peu le costume traditionnel, même s'il reconnaît la chefferie traditionnelle. Mais il se réclame constamment, et là je le cite, d'une communauté mystique franco-sénégalaise. Franco-africaine. Désolé. Et c'est important d'insister sur ce mélange qui définit cette identité, cette espèce d'extraordinaire hybridité et flexibilité de Oufoué. Et je vais revenir là-dessus. Parce que l'explication qu'il va donner de sa conversion au christianisme, c'est de dire que c'est parce qu'il a horreur des sacrifices humains qui ont accompagné en fait la mort des rois baoulés, la mort des chefs baoulés. Il avait une sainte horreur de ça et c'est pour ça qu'il se convertit. Mais dans ces moments, l'intérêt en fait, c'est comment ça arrive. Il y a une construction du personnage qui est assez extraordinaire. En fait, quand il est né, il ne s'appelle pas Oufoué-Boigny, il s'appelle Dia Oufoué. Il va laisser tomber le Dia et il va ajouter le nom Boigny Bélier, qui est le symbole de son clan. Et quand il se convertit, il se choisit lui-même le nom de Félix. Et c'est ce jeu de miroir qui définit le personnage. Et c'est ce jeu du miroir qui a été au cœur de la construction de l'État, au cœur de la construction de l'État ivoirien. Parce qu'en même temps qu'il affiche cette extraordinaire modernité, et je vais y revenir parce que c'est cette modernité qui va faire de Oufoué-Boigny, dans les années 50, le plus gros producteur de cacao de toute la Côte d'Ivoire. Et cette modernité, elle est en même temps contredite par l'idée que cet homme, toute sa vie, a persisté à dire que dans la culture baoulée, il est interdit de désigner le successeur du vivant du chef. Il ne se préoccupait même pas d'une question qui était très simple. Et si c'est vrai pour les Baoulés, il n'est pas uniquement le chef des Baoulés. Il est président d'une république. Et cette république est une république multiethnique. En quoi la référence à la culture baoulée est fondatrice de la décision qui se passe. Et il a aussi constamment insisté sur le fait que la Côte d'Ivoire possède ses propres traditions et l'Occident n'a pas d'autre choix que de les accepter et d'accepter les Ivoiriens tels qu'ils sont, non pas pour ce qu'eux voudraient qu'ils soient. Et ça a été une position qui a été maintenue, en fait, au cours de l'histoire d'Ouphé Boigny et l'histoire de sa présidence. Et l'histoire d'Ouphé Boigny commence effectivement par une lutte au service des planteurs africains, la lutte pour l'abolition du travail forcé. Cette lutte pour l'abolition du travail forcé, il l'a partagée avec Lamine Gueye, il l'a partagée avec Senghor, avec Modibo Keïta, avec aussi Sékou Touré. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bénéfice que Oufoué a tiré de l'abolition du travail forcé en 1946, la loi qui abolit le travail forcé porte son nom, aucun autre leader ne l'a eu. Ça a fait, effectivement, les leaders l'ont utilisé pour se construire une base politique, pour se construire une base électorale. Mais les chercheurs qui ont regardé, en fait, ce début de l'entrée en scène de Oufoué Boigny insistent particulièrement sur le fait que c'est lui qui a tiré le plus de profit. L'une des premières études sur les partis politiques africains est une étude qui est faite par une femme américaine qui s'appelle Ruth Satcher Morgenthau. Et voilà la manière dont elle parle de Oufoué Boigny. Comme candidat du syndicat agricole africain, Oufoué Boigny s'était fixé comme objectif prioritaire l'abolition du travail forcé. Dans les campagnes, il était devenu un héros, un libérateur. La victoire qu'il avait obtenue marque le début du mythe qui enveloppe le personnage. La première tradition vraiment ivoirienne, la première tradition nationale ivoirienne. Cela veut dire que cette victoire a permis à Oufoué d'exister dans toutes les ethnies ivoiriennes et d'être le personnage clé de la vie politique ivoirienne. Les partisans d'Oufoué Boigny, continue-t-elle, avaient travaillé très activement à s'organiser et se sont appuyés sur son prestige pour bâtir une structure partisane. C'est grâce à leur diligence, mais aussi au sens des affaires, des commerçants djoula et libanais que dès 1946, il y avait des photos de Oufoué Boigny, il y avait des breloques de Oufoué Boigny, il y avait des parfums Oufoué Boigny, il y avait des tissus à son effigie en vente sur tous les marchés de la Côte d'Ivoire. Des danses, des légendes, des chansons et des jeux disaient et redisaient la geste de Oufoué Boigny libérant les travailleurs africains. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que très vite, il y a une ascension fulgurante d'Oufoué Boigny. Et c'est vraiment un personnage qui se construit pour prendre en main l'histoire et le destin de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé très rapidement de sa naissance. Il est né en 1905 dans une famille de chefs baoulés. Son oncle est le chef des baoulés de son clan, mais son oncle est un collaborateur. Son oncle est associé à la politique coloniale française. Donc, j'ai parlé de ses études, j'ai parlé de ses amitiés, du rôle de son beau-frère dans la découverte du monde à Caen. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que quand Oufoué Boigny revient en Côte d'Ivoire, après ses études à Dakar, ses activités de médecin lui permettent de véritablement découvrir la Côte d'Ivoire, de voyager et de découvrir son pays, parce qu'il a été affecté dans plusieurs régions. Et en fait, il ne veut pas, quand son oncle décède, alors qu'il est l'héritier, il ne veut pas de l'héritage, il ne veut pas être chef. Donc il laisse à son frère la chefferie. Mais après la mort de sa mère en 1935, la mort de son frère en 1938, il décide de retourner en pays baoulé. Il décide de retourner à Yamoussoukro. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça aussi qui montre qu'il est très, très différent. Par exemple, comparatif, si on le compare à Senghor, Il est assez différent de lui. Oufou est un médecin, il est fonctionnaire colonial, mais très vite, il va investir dans la plantation. Il va hériter d'énormes lopins de terre de son oncle. Il va hériter aussi de richesses, notamment l'or que les Baoulés accumulaient. Et il va utiliser, en fait, les ressources qu'il a obtenues pour commencer une vie de planteur. Et cette vie de planteur, il la commence, comme je dis, avant de devenir chef. Mais cette vie de planteur et de fonctionnaire est toujours associée à la vision qu'il a du rôle du chef. C'est-à-dire, il a des activités sociales et des activités philanthropiques. Par exemple, il crée l'association des chefs coutumiers. Il crée un dispensaire et une pharmacie et à Yamoussoukro. Et c'est à partir de ce moment que, justement, quand il s'appelle Oufoué Boigny, il utilise son nom et il utilise une histoire pour construire son pouvoir. Et pour expliquer cette histoire, en fait, la plupart des chercheurs considèrent que Oufoué a bâti son pouvoir en utilisant l'histoire des Baoulés. Et cette histoire des Baoulés, c'est l'histoire d'une ethnie qui est à la frontière. Vous savez, l'histoire classique des Baoulés de la fosse la raconte avec le mythe de la reine Poku. Et l'histoire de la fosse est une histoire qui insiste sur le mouvement de groupes guerriers qui partent du pays Ashanti et viennent s'établir en Côte d'Ivoire à partir du Ghana, c'est-à-dire le mouvement du monde Akan. Et ils s'installent dans cette zone. Et en fait, ils s'installent dans cette zone en forme de V. Et cette zone devient une frontière durant la période précoloniale. Et aujourd'hui, les historiens ont montré de manière très convaincante que le mouvement de migration et d'installation des Baoulés, c'est plutôt le mouvement de petits groupes et de groupes qui sont capables, à la frontière, de créer. Et là, la frontière est une zone d'interaction entre différentes cultures. C'est une zone d'interaction d'unité politique, mais aussi d'individus entreprenants et de groupes entreprenants. Et cette idée d'individuation est très intéressante parce que cela va donner aux Baoulés, dès la période coloniale, une identité qui est une identité de fusion. Ils vont être capables de négocier de manière très opportunistique avec les populations qui sont en fait autour d'eux. Ils vont créer des réseaux de parenté, des réseaux de dépendance et effectivement construire, si vous voulez, des nouvelles identités. Et ceci est très important parce que quand on va parler des mouvements des Baoulés, quand ils vont s'installer en particulier dans cette région, au moment du miracle ivoirien, ils vont perdre cet esprit de la frontière. Ils vont perdre, surtout avec les populations de cette région, une capacité de négociation, probablement parce qu'ils ont une vision de ces populations qui est non seulement une vision condescendante, mais qui est une vision dans laquelle ils considèrent que ce sont effectivement des sauvages. C'est-à-dire, l'ethnologie coloniale, ils l'ont intégrée dans leur propre discours. Ils vont être capables aussi, quand, en fait, la frontière coloniale va s'installer, ils vont être capables, comme les Wolofs l'ont fait au Sénégal, de profiter de cette frontière et d'intégrer cette frontière pour s'offrir un espace à eux. Et un historien américain, Chappelle, présente cette situation ainsi, cet héritage de Oufoué. L'héritage historique singulier des Baoulés leur a donné un avantage sur toutes les autres traditions ethniques et un rôle dirigeant dans la mise en place de l'élite politique ivoirienne depuis l'indépendance. Les Baoulés avaient une maîtrise parfaite de l'ethnogénèse de la frontière. Ils adaptèrent leur ethnicité et leur capacité interpersonnelle de négociation de l'environnement culturel de la zone dont j'ai parlé tout à l'heure, la zone en forme de V, où ils se sont installés entre les fleuves Bandama et Nzi au cœur de la Côte d'Ivoire moderne. Leur installation sur cette frontière est carrefour d'échanges dynamiques, les aida à développer une tradition d'opportunisme et de création de réseaux d'échanges qui contribuaient à l'ascendance baoulée, pas seulement au cours de la période précoloniale, mais aussi durant la révolution de l'économie de plantation sous la colonisation française et pendant la phase postcoloniale d'émergence de la bourgeoisie d'État édifiée en recourant à des arrangements ethniques et clientélistes. Les baoulés n'ont certainement pas fait de tous les Ivoiriens des baoulés, comme le suggère la rhétorique de Houphouët-Boigny, mais ils ont d'une certaine manière injecté un style particulier au processus politique ivoirien. Dans ce sens, le charisme de Houphouët-Boigny, sage et réservé, n'est pas uniquement, et ça c'est très important, le résultat d'une ambition personnelle ou de manipulation coloniale. Il est aussi le produit abouti d'une longue évolution historique qui a commencé dans la conjoncture culturelle d'une frontière précoloniale. Ce que la plupart des historiens américains qui travaillent sur la Côte d'Ivoire ont essayé de montrer, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'idée communautaire, ils sont beaucoup plus sensibles au processus d'individuation dans ces systèmes qui semblent être collectifs, c'est précisément d'essayer de suivre des trajectoires. Et ce qu'ils montrent pour les baoulés, c'est que les baoulés ont été constamment capables de négocier, en particulier dans cette zone avec les Djoula. Parce que quand les baoulés s'installent à cette frontière, ici, les Djoula commencent à s'installer dans cette frontière-là et à construire aussi des réseaux d'échange et des unités politiques qui vont jouer un grand rôle. Donc, on voit très bien la logique qui va présider à l'édifice politique d'Houphouët-Boigny. C'est une logique de carrefour et c'est une logique de négociation. Et dans la logique de la chefferie baoulée, le pouvoir n'est pas uniquement militaire. Et le pouvoir n'est pas forcément militaire. On acquiert le pouvoir aussi par la capacité de la négociation, par la capacité de la persuasion, à la fois à l'intérieur du groupe et dans les développements entre les différents groupes. Donc les activités militaires ne sont pas des activités aussi importantes. Et dès le moment où les baoulés vont accepter cette idée de la frontière coloniale et de ses produits, et le gros produit va être le cacao, ils vont utiliser leur capacité de négociation, leur opportunisme et leur assimilation. En fait, ils vont créer dans des situations qui sont des situations où les enjeux politiques sont des enjeux politiques de survie, ils vont s'installer à l'intérieur. Et ils vont utiliser leurs propres ressources, apprendre les ressources de la colonisation française pour négocier à la fois avec les Français, mais aussi négocier avec les autres groupes, en particulier le groupe Akan. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'à la fin de la guerre, Houphouët a des ressources matérielles assez importantes. Il a déjà créé un syndicat. Il a en partie le PDCI. En 1946, il a créé le RDA. Le RDA qui a été, en fait, qui a été capable très vite de devenir un grand parti régional, sauf au Sénégal, où le RDA n'a pas très bien marché. Donc, ce qu'on voit, c'est un homme qui est au cœur d'un système. Mais ce qui est intéressant, et ce système va continuer, je vais en parler rapidement, c'est que ce système reste fondamentalement construit autour de ce qu'on pourrait appeler un pôle organisateur, qui est le pôle baoulé. Et Tessie Bakary, dont j'ai parlé tout à l'heure, a montré très clairement, en fait, que l'arrangement ethnique, cet héritage baoulé et la négociation, même s'ils ne sont pas présentés publiquement, même s'ils ne sont pas affichés publiquement, ces arrangements ont toujours été au cœur du pouvoir de Houphouët-Boigny. C'est-à-dire trouver l'équilibre ethnique a toujours été là, même dans les périodes qui ont été des périodes de répression. Et d'après Tessie Bakary, si on regarde en fait la composition du pouvoir politique et du pouvoir économique ivoirien, on peut identifier à peu près 300 familles qui constituent ce qu'il appelle la confraternité du pouvoir. Et il montre que cette confraternité du pouvoir est construite autour, comme je disais, du pôle baoulé, c'est-à-dire les baoulés sont à peu près, les akans sont 40% de la population, ils occupent 50% des postes les plus élevés dans l'administration et dans l'économie. Mais les autres ethnies sont représentées. Et quelquefois, ce sont des représentations assez extraordinaires. Par exemple, si on prend les Zani, à la fin des années 60, on les accuse de se rebeller. Il y a une féroce répression menée par Oufoué contre eux. Mais ils se réconcilient très vite avec eux dans les années 80. Et les Zani, qui représentent 6% de la population, vont très vite occuper 20% des postes dans la haute administration. Et c'est ça, en fait, le pouvoir de Oufoué. C'est de récompenser et de punir, mais de s'assurer effectivement que le système est construit de telle sorte que les ressources, en fait, sont des ressources qui vont aussi vers le bas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Oufoué semble avoir utilisé une expertise qu'il a, qui s'est construite, qui est une expertise culturelle, qui est une expertise technique, qui est aussi une expertise économique. Et ces différentes expertises et répertoires, il les a étudiées dans la famille, dans le clan, dans l'ethnie, au sein du peuple Alcan, à l'école, dans la profession de médecin, dans la plantation de café et de cacao, mais aussi d'ananas, pour construire cette carrière politique et syndicale dont j'ai parlé. Et la logique qui se manifeste dans cette construction n'est pas du tout une logique uniquement occidentale. La logique occidentale, elle est présente dans la construction du pouvoir. Mais les ressources qui permettent la construction de ce pouvoir sont des ressources qui sont des ressources africaines. Et ces ressources africaines sont présentes à toutes les étapes. Quand il est le responsable de l'association des chefs coutumiers, quand il est le responsable du syndicat, etc., etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est cette deuxième partie qui est la construction de l'action syndicale et de l'action politique. J'en ai déjà parlé, mais ce qui est important, c'est de voir comment la construction de l'action syndicale va permettre à Oufoué de renforcer son rapport avec les gens du Nord, avec les musulmans. La question d'achoppement avec l'administration coloniale, c'était la question de la main-d'œuvre, du travail et du travail forcé. C'est-à-dire la capacité des planteurs africains de recruter dans le Nord. Oufoué va très vite établir ses propres réseaux. Ses réseaux avec le Moronaba, en Haute-Volta, mais aussi ses réseaux avec, en particulier, la chefferie de Korogo et Gon Koulibaly, le grand chef de l'après-guerre. Mais il va aussi travailler dans cette zone avec un marabout musulman qui a été déporté par les Français dans la ville de Sassandra, Yacouba Silla, qui est un marabout soninké du sud de la Mauritanie, qui était un jeune marabout assez rebelle qui était accusé d'être amaliste. Vous connaissez l'histoire du Soudan français et de Cheikh Amala. Et en fait, c'est l'une des bases de l'amitié de Oufoué Boigny et d'Amadou Ampadéba. C'est là où il, en fait, où il se retrouve, parce qu'Ampate a toujours été accusé d'être plus ou moins amaliste. Et son livre « La vie de Tchernobokar » semble en fait justifier cette caractérisation. Mais ce qui est intéressant avec Yacouba, c'est qu'il est en résidence surveillée jusqu'en 1938 à Sassandra. 1930-1938, 8 années. Mais ses disciples quittent le Soudan, la Mauritanie, probablement le nord du Sénégal, pour venir le rejoindre ici, en Côte d'Ivoire. Et quand la résidence surveillée est levée, Amala, Yacouba va devenir un commerçant, un planteur, et l'un des plus grands transporteurs de la Côte d'Ivoire, très vite. Et il va s'allier avec Oufoué. Et cela va jouer un rôle très, très important et dans la construction du réseau politique de Oufoué et dans les rapports entre Oufoué et les Bété. J'ai parlé tout à l'heure de la frontière et l'importance de la frontière. J'ai parlé de la frontière précoloniale des Bété, des Baoulé. J'ai parlé de la frontière coloniale. Et cette frontière coloniale a continué à se déplacer. Et ça s'est déplacé vers les zones forestières. Avec les travailleurs venant et les Djoulas venant du nord, avec les Baoulé, mais aussi avec les Zani. Et cela va créer une profonde transformation démographique et ethnique de la région. Mais l'une des caractéristiques les plus intéressantes des Djoulas et des gens du nord, c'est quand ils s'installent dans cette région, ils s'installent dans les villages. Et ils vivent avec les autochtones dans la plupart des cas. Les Baoulé ne le font pas. Ils vivent sur leurs plantations ou dans des campements à côté de leurs plantations. Ils sont en transit. Et à cause de la domination du syndicat par les Baoulé et les Diola et du PDCI, en fait, les seuls partis d'opposition qui vont se développer en Côte d'Ivoire, notamment le Parti socialiste ivoirien, vont se développer aussi dans cette région. Chez les Bété, il y a une très longue tradition Bété de résistance au pouvoir de Oufoué Boigny. Ça commence durant la période coloniale. Et quand, en fait, le PDCI, il y a une répression contre le PDCI. Parce que quand le PDCI rejoint le Parti communiste français, l'administration coloniale décide de sévir. Et entre 47 et 50, il y a véritablement des attaques, des détentions, des tortures contre, en fait, le PDCI. Et c'est seulement à la fin, disons, quand les Français vont essayer d'épurer. Vous savez, l'Afrique occidentale française était pro-vichiste au moment de la guerre. Jusqu'en 1944, le moment où les Africains vont commencer à avoir l'oreille de l'administration coloniale, c'est à ce moment où, en fait, la décision est prise de dévichiser la Côte d'Ivoire. Mais Oufoué allait trop loin, selon les administrateurs, précisément parce qu'il s'est allié avec le Parti communiste. Ça aussi, c'est l'opportunisme de Oufoué. Parce que c'est un chef conservateur qui n'est absolument pas communiste. Il ne l'est pas, il ne l'a jamais été. Les communistes français savaient qu'il n'était pas communiste. Mais ils savaient qu'une alliance avec les communistes lui permettait de se mettre en position forte de négociation. Et il avait le soutien des communistes. Mais en 50, les communistes ne sont plus au gouvernement. Il se fait convaincre par Mitterrand. C'est là où Mitterrand apparaît encore dans la vie, disons, politique africaine. Et ce rapport à Oufoué devient un rapport très, très important. Et c'est ce moment, justement, qui devient un moment intéressant. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, parce qu'il y a cette présence très importante des Baoulé, des Djoulas, des Akan en général, Oufoué a la capacité de mobiliser, en fait, disons, des militants et des électeurs dans cette zone. Il n'a pas besoin, en fait, de mobiliser les Bété, il n'a pas besoin de mobiliser les Gourous, il n'a pas besoin de mobiliser les Dans. il a une population là qui vote. Et cette idée d'accorder le vote aux, disons, aux migrants devient aussi une question centrale dès ce moment-là. Et Gbagbo va la soulever dès le moment de la démocratisation. C'est-à-dire les migrants vont devenir un enjeu, l'enjeu politique le plus important de la Côte d'Ivoire des dernières années de Oufoué. Et la discussion autour de la démocratisation met au milieu, en fait, de la table la question des migrants. Pourquoi ? Pour précisément ces raisons historiques, l'extraordinaire présence et capacité de ces migrants et de ces djoulas à recruter au service de Oufoué-Boigny et la marginalisation des populations autochtones. Mais aussi le fait que Oufoué-Boigny, qui était contre le maintien de la Fédération de l'Afrique occidentale française, ou de, le maintien de la Fédération de l'Afrique occidentale, qui a travaillé dur pour éviter que le Bénin, le Togo et le Niger rejoignent en fait la Fédération du Mali, Oufoué-Boigny a quand même un petit penchant panafricaniste. On peut bien sûr analyser ce penchant. Oufoué a décidé dès 60 que tout Africain qui vit en Côte d'Ivoire a la possibilité de voter et doit voter. Et bien sûr, ces gens vont voter pour lui, pour son parti, parce qu'il est en fait leur défenseur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi Oufoué-Boigny a utilisé cela pour une raison très simple. C'était la seule manière, en fait, d'attirer les Africains en Côte d'Ivoire. Cette main-d'œuvre qui était essentielle au miracle, qui est le miracle ivoirien. Donc, ce qu'on a jusqu'au moment de l'indépendance, c'est un Oufoué qui est le mythe, Oufoué qui est le symbole de la Côte d'Ivoire. Et une Côte d'Ivoire qui est devenue la colonie la plus riche de l'Afrique de l'Ouest française. Et il y a un grand débat dans les années 50, en particulier à partir de 1958, où l'idée de l'indépendance, où il y a trois options, si vous voulez. Première option, c'est le maintien de l'Union française, c'est-à-dire les colonies deviennent des nations à part, mais font partie d'une grande France. Et dans cette France multinationale, en fait, il y a différents pouvoirs qui sont alloués au territoire et des pouvoirs qui sont en fait les pouvoirs de l'État confédéral. Senghor et Mamadou Dia du Sénégal sont les grands partisans de cette thèse. Senghor a toute une théorie là-dessus. C'est là où il forge le concept de balkanisation, qu'il faut lutter contre la balkanisation de l'Afrique, c'est-à-dire le partage de l'Empire français en petits morceaux. Et quelquefois, quand on parle de Senghor et sa défense de l'Union française, on ne dit jamais une autre chose qui est très, très importante, c'est que Senghor considérait que s'il fallait faire le sacrifice de rester dans une grande France, dans l'Union française, pour préserver la fédération, il valait mieux faire ça qu'aller à l'indépendance des Unis. Oufoué-Boigny connaissait tellement bien le jeu politique français qu'il ne voulait pas sortir de ce jeu politique parce qu'il tirait des bénéfices qui étaient des bénéfices importants. Mais aussi, il considérait que les Sénégalais voulaient maintenir la fédération pour une seule raison, pour bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'en 1958, Oufoué-Boigny a demandé très sérieusement à ce que Dakar ne fasse pas partie du Sénégal, parce que c'est la capitale de l'AOF qui a été construite par l'argent de toute l'AOF, pas seulement des Sénégalais. Et cela est aussi, ça montre en fait que les discussions étaient des discussions très vives entre les leaders africains, mais à l'intérieur des partis aussi, les discussions étaient des discussions très vives. Et Oufoué-Boigny a fait capoter effectivement cette fédération. Et il a fait capoter cette fédération précisément pour des raisons qui étaient des raisons, disons, plutôt égoïstes, si vous voulez, très rapidement. Mais l'autre aspect très intéressant dont on ne parle pas beaucoup dans cette discussion autour de la fédération, c'est que le Ghana, donc la Gold Coast, qui devient Ghana en 1957. Elle devient indépendante. Et en 1957, Kwame Nkrumah fait une visite à Ouphé-Boigny. Et Nkrumah donne un discours, prononce un discours qui est un discours assez radical, où il dit à Ouphé-Boigny, vous savez, vous les francophones, là, vous êtes trop mous. Il faut demander l'indépendance et virer les Français. Vous n'avez pas besoin d'eux. On va former une grande Afrique riche et prospère entre nous, donc on se débarrasse des Français. Et Oufoué se lève pour répondre à ce projet et dit à Nkrumah, je prends un pari avec vous. Vous avez décidé d'être indépendant hors de l'Angleterre et contre l'Angleterre. Nous, on va être indépendant avec la France. La communauté franco-africaine est éternelle. On se rencontre dans 10 ans, on en discute et on compare le développement du Ghana et le développement de la Côte d'Ivoire. Je prends le pari qu'on sera en avance sur vous. C'est vrai que Nkrumah perd le pouvoir en 66, mais le Ghana de 63 à 70, c'est une spirale descendante. Et 60-80, c'est le miracle ivoirien. Donc, Oufoué a raison pour les 10 premières années, mais il a tort pour les 10 dernières années, parce que c'est le Ghana qui est devenu aujourd'hui un pays en avance économiquement, mais aussi un pays très en avance dans la construction d'une société démocratique. Donc, on voit très bien, en fait, ce qui se passe comme jeu. Mais il y a aussi un aspect très important pour comprendre le jeu du pouvoir dans l'Afrique occidentale de ces années, c'est que c'était un jeu de pouvoir où ce ne sont pas nécessairement les leaders qui décident, mais aussi les masses, les militants jouent un rôle, et un rôle très important. Par exemple, quand on considère véritablement le nom de Sékou Touré, aujourd'hui les historiens montrent que le nom de Sékou Touré, ce n'est pas nécessairement Sékou Touré qui l'a imposé, mais c'est en fait dans la discussion au sein du parti qu'il y a une majorité qui s'est imposée. Et il y a ce même débat au Sénégal où, si vous voulez, de 56 à 62, Mamadou Diaye est plus ou moins l'homme politique prédominant, mais à partir de la crise de 62, il est liquidé. Ouphé-Boigny arrive à régler tous ses problèmes avant l'indépendance. Et en fait, le PDC est presque un parti unique dès 1957. Et Oufoué est au centre. Et Rufsatcho Morgenthau, qui a publié son livre en 64, dit que, en fait, le seul pouvoir qui existe au sein du PDCI est le pouvoir de Ouphé-Boigny. C'est Ouphé-Boigny qui décide de tout. Et le parti est un parti où il n'y a pas une direction collective. Et Oufoué va éliminer tous les gens qui vont lui poser des problèmes. L'un des grands leaders du parti, c'est Jean-Baptiste Moké. 59, Jean-Baptiste Moké se présente et devient secrétaire général du PDCI. Il n'a pas demandé l'aval de Oufoué. En 62, il est accusé de faire partie d'un coup d'État. Il est accusé avec la jeunesse du RDA d'avoir des activités fractionnistes et Oufoué les liquide. Et en fait, très vite, avant 63, il a liquidé l'aile gauche du PDCI. Et à partir de 65, il crée une structure qui lui permet de contrôler le parti directement en l'administrant, c'est-à-dire les préfets. La construction des préfectures vont donner le pouvoir politique aux préfets. Et les préfets répondent, en fait, du pouvoir de Oufoué. Donc, il n'y a plus aucune vie. Il y a une rhétorique que le parti, en fait, donne la direction du pays, mais cette rhétorique ne veut, si vous voulez, rien dire. Mais ce qui est encore toujours aussi important chez Oufoué, c'est le respect des quotas ethniques, le respect de la représentation, c'est-à-dire la participation de tout le monde au partage du gâteau. Des migrants aux autres ethnies. Mais autour, en fait, si vous voulez, du chef. Et ce chef incontesté, c'est Félix Houphouët-Boigny. Et c'est comme ça que le miracle, en fait, se produit. Un développement économique extraordinaire. Une capacité de l'État à accumuler des ressources. La Côte d'Ivoire devient le premier producteur de cacao au monde. Houphouët crée une caisse de stabilisation. La caisse de stabilisation lui permet de payer 25 cents le kilo au producteur et de vendre 1 dollar le kilo sur le marché mondial. Donc l'État ivoirien accumule des ressources extraordinaires. Et ces ressources sont utilisées, bien sûr, pour construire Abidjan, mais aussi pour construire Yamoussoukro. Et c'est là aussi où il y a une espèce d'extraordinaire effet de miroir. Quand il décide de moderniser Yamoussoukro et de construire la basilique Notre-Dame de la Paix, la Côte d'Ivoire est riche. Cette basilique qui va coûter 300 millions de dollars. Et cette basilique qui est probablement, qui a été construite seulement pour être le tombeau du chef. Semble-t-il, il n'a pas été enterré là-bas, mais il a été probablement enterré là-dedans. Mais ce qui est important, c'est de voir en fait cette espèce de corrélation entre la réussite du miracle, mais aussi la capacité de Houphouët de maintenir, si vous voulez, son projet initial. À la différence de Senghor, qui est resté le théoricien de l'universel et de la modernité, Houphouët a continué à dire que la Côte d'Ivoire est un État paysan, qu'il est lui-même un paysan. Et dans une certaine mesure, il a raison. C'est probablement le seul parti de l'Afrique de l'Ouest francophone qui est un parti qui est né à la campagne et non à la ville. Et c'est probablement le seul parti qui n'est pas un parti de fonctionnaires ou d'instituteurs, mais un parti de planteurs, un parti de commerçants, un parti de transporteurs. Et cela va donner à Houphouët une capacité extraordinaire de manipulation. Parce qu'il a affaire à des producteurs, parce qu'il est capable de mettre l'accent sur ce qu'il dit la production. C'est pour ça qu'il dit « je ne suis pas socialiste », mais il dit « je suis pour un capitalisme d'État ». C'est l'État qui contrôle l'économie et c'est l'État qui redistribue. Et c'est ça la fonction principale que Houphouët attribue à l'État. C'est la fonction principale aussi que Houphouët attribue, disons, attribue à l'économie. Mais c'est aussi ce qui explique qu'en fait, le parti qu'il construit est un parti qui contrôle l'ensemble de la société. Les seules organisations qui sont acceptées en Côte d'Ivoire dans ces années-là, avant, disons, la transition démocratique, sont des partis ethniques et les associations ethniques, si vous voulez. Et ces associations ethniques font partie des rouages du parti. Et c'est ça qui va expliquer, et un collègue anthropologue, Jean-Pierre Dozon, l'a très bien montré, pourquoi la logique, une logique baoulé contre la logique, une logique bété contre la logique baoulé va effectivement se développer. Et on en voit les traces. Les rébellions des années 60, la grande rébellion de 70 qui est sévèrement, en fait, qui est sévèrement réprimée, mais qui semble marquer l'émergence d'une identité, d'une conscience, si vous voulez, Djoula, qui a des expressions politiques très importantes. Et la troisième phase de cette renaissance, en fait, les activités de Laurent Gbagbo et la naissance du FPI. Mais ce qui est, me semble-t-il, est quelque chose de très important, c'est qu'en fait, la logique politique de la frontière ne pouvait marcher que parce que la Côte d'Ivoire produisait des ressources pour alimenter cette logique. Et dès le moment où, effectivement, il y a un effondrement de la production de cacao, et Oufé va vraiment se battre, il va essayer de stocker la production pour faire monter les prix. Mais au moment où il le fait, à la fin des années 80, il y a des concurrents comme la Malaisie sur le marché, et il est incapable de faire monter les prix. Donc, il est forcé de se plier aux exigences des donateurs. Et en fait, l'histoire de cette dégringolade qui commence en 85, c'est aussi l'histoire, si vous voulez, de la fin du projet de Oufoué. C'est la fin de ce que j'appelais ce modèle pionnier qui a été en fait animé, en particulier par les Dioula et par les Baoulé. Et si on regarde la géographie économique de la Côte d'Ivoire dans ces années-là, il y a un renversement qui est un renversement très intéressant. Ouattara devient premier ministre, Oufoué est forcé de démocratiser. Et la démocratisation de Oufoué est très intéressante aussi, parce que quand on regarde et on l'analyse attentivement, on voit très bien que Oufoué démocratise. Et c'est une initiative à lui, parce que ça lui permet de gagner du temps. Il démocratise parce qu'il ne peut pas satisfaire les demandes des planteurs qui commencent de plus en plus à s'exciter. Il ne peut pas satisfaire les demandes des enseignants qui étaient les mieux payés de l'Afrique de l'Ouest et qui se retrouvent avec des salaires presque divisés par deux. Il ne peut pas satisfaire la demande. Donc il va essayer de dévier cette demande par la démocratisation, en laissant aux gens la possibilité, effectivement, de créer des partis et de revendiquer. Mais il savait, parce que entre le moment où il décide la démocratisation et le moment des élections, c'est 6 mois. Il sait qu'il ne peut pas se préparer pour gagner les élections. C'est pour ça qu'il va gagner, en fait, contre Gbagbo. Et ce qui est intéressant, c'est, en faisant cela, Oufoué a essayé de trouver des solutions, qui sont des solutions internes qui ne vont pas marcher, mais qui vont créer plutôt des problèmes. Parce que, comme je disais, il y a un renversement de situation. C'est que les Dioula, qui se sont ancrés dans une économie de commerce et dans une économie de production, n'ont jamais vraiment bénéficié des prébendes de l'État directement. Les prébendes de l'État étaient en fait distribués à des populations de cette région. Mais les Dioula ont été capables, parce qu'ils étaient seuls dans la sphère économique, de développer en particulier une économie urbaine très active et très réussie, et en utilisant l'ensemble de leurs réseaux régionaux pour accumuler. Donc quand la bureaucratie ivoirienne s'enfonce dans la crise, elle se retrouve avec une population qui était censée en fait, être allié, être dans des situations en fait d'accumulation plus importantes. Mais cette population commence aussi à se poser des questions autour du partage du pouvoir politique. Et ils vont avoir cette chance extraordinaire parce que Oufoué va leur offrir. Oufoué va prendre le premier ministre Alassane Ouattara. Et en fait, après les élections, Alassane Ouattara va devenir véritablement le patron de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et va prendre en charge, effectivement, la réduction des prébendes. Et il va réduire le pouvoir, il va réduire les capacités économiques et financières de ceux qui ont été toujours au cœur de ce pouvoir. Et dans une certaine mesure, il réussit son pari de rétablir les équilibres macroéconomiques. Mais il ouvre une brèche. Et cette brèche, c'est la brèche de la, précisément, qui clôture cette longue histoire qui est l'histoire de la construction d'un pouvoir, qui est la construction d'une économie qui est portée par un homme et par sa légende, mais qui est portée aussi par une économie, l'économie du cacao. Et Cette période 90-93, qui est la période de la primature de Alassane Ouattara, est une période, en fait, où la remise en cause de l'architecture du pouvoir de Félix Houphouët-Boigny ouvre des opportunités nouvelles à des acteurs, plusieurs d'entre eux, des acteurs qui étaient marginalisés ou des acteurs qui étaient associés. Et ce que ça entraîne, c'est, si vous voulez, l'émergence de ressources qui ont constamment été utilisées mais qui n'ont jamais été affichées, les ressources de l'ethnicité. Et c'est là où je voudrais terminer, parce que je pense que c'est ça probablement l'héritage le plus important de Houphouët, c'est d'avoir compris qu'on ne pouvait pas se passer de l'ethnicité. Mais sa plus grande faute, c'est de ne l'avoir pas fait de manière évidente sur une base qui est de la base de la négociation. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire, c'est que les nouvelles coalitions qui se sont formées sont des coalitions qui ont vraiment investi dans la construction de clientèle régionale, dans la construction de clientèle ethnique, dans la construction de clientèle religieuse. Alors que Houphouët a toujours jonglé et navigué entre ces différentes clientèles en redistribuant une partie des ressources, en redistribuant une partie des pouvoirs et en remenant les gens dans le jeu. Je donne l'exemple encore de 70. Violente répression contre les bétiers en 70. En 80, ils se réconcilient avec eux. Mais en 70, ce qui est intéressant, quand ils se battent avec les bétiers, il décide de fêter les 10 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'il va pour fêter les 10 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? À Gagnoa. Et il va pour célébrer Yacouba Sylla. Il va pour célébrer les nordistes, en plein cœur du pays bété, pour montrer la force qu'il y a derrière. Et pour un historien, 50 ans après les indépendances, revisiter l'itinéraire de Houphouët, c'est de permettre de comprendre les tours et les détours pris par la construction de l'État, par la construction de la nation. Mais Houphouët nous permet aussi de comprendre plusieurs points. Premier problème, c'est la question des rapports entre la continuité démocratique et la succession. La succession semble être l'obsession des sociétés africaines. Et je ne comprends pas pourquoi un chef d'État devrait nécessairement avoir un successeur si on est dans un régime démocratique. Vous savez, il y a plein de politiciens, par exemple au Sénégal, qui sont contre la succession de père en fils que Ouad est supposé vouloir, mais qui ne sont pas contre la succession. Si la succession leur bénéficie, ils sont prêts. Et c'est ça qui est. Alors que la question aujourd'hui, c'est cela. Et pour moi, la leçon la plus extraordinaire de Houphouët et de Senghor, c'est de n'avoir jamais essayé de mettre leurs enfants au pouvoir. De n'avoir même pas fait de leurs enfants des personnages publics. Et ça, c'est une leçon qui est une leçon importante que nous devrions méditer. La deuxième leçon que nous devrions méditer et revisiter, je pense que c'est la question du pluralisme. Même si c'est la reconnaissance d'un pluralisme informel, même si c'est la recherche d'un entrecroisement entre l'ethnicité et l'inégalité, les pères fondateurs ont tenté au moins quelque chose, de trouver une réponse à cette question lancinante, qui est la question de la fragmentation des sociétés africaines. Ce que je disais, c'est que malheureusement, dans la plupart des cas, ils n'ont pas essayé. Et c'est là où Senghor et Houphouët se rejoignent. Si vous regardez leur itinéraire politique, et si Senghor a été capable de battre Lamine Gueye d'abord et Mamadou Dia ensuite, c'est que Lamine Gueye et Mamadou Dia, l'un qui était un Wolof, l'autre qui a grandi parmi les Wolof, n'ont jamais été capables de comprendre qu'on ne pouvait pas faire la politique sans jouer avec les ressources qui sont les ressources de ces sociétés-là. Et Senghor a joué avec les ressources du terroir. Senghor a joué avec les marabouts. Senghor a joué avec les chefs ethniques pour se trouver en position de force et battre ces deux adversaires qui étaient en même temps aussi ses deux collaborateurs. Oufoué a fait la même chose. Et c'est là où, en fait, regarder cette logique de l'ethnicité telle qu'elle est utilisée par Oufoué, j'ai dit que c'était un héritage baoulé, et comparer avec la logique de l'ivoirité de Bédié, et peut-être, si vous voulez, la preuve la plus éclatante que Bédié n'est pas l'héritier d'Oufoué et n'a pas compris, en fait, le pouvoir que Oufoué a construit. Et ce pouvoir est un pouvoir, effectivement, qui repose sur un capitalisme d'État. Mais c'est aussi l'ensemble de ces contradictions de ces pères fondateurs, qui sont à la fois des pères, qui regardent la nation comme une famille, mais qui sont aussi, et Oufoué a été l'un d'eux, disons, des présidents autoritaires, des présidents qui ont souvent utilisé la violence, et la violence extrême contre le peuple. Et dernière question qui me semble importante, qui est un peu provocatrice, je pense que, en fait, à cause de cette juxtaposition et coïncidence entre l'histoire de la Côte d'Ivoire et l'histoire de Oufoué, il me semble, c'est peut-être aussi ce qui guette mon président, c'est l'obsession de l'immortalité. Je pense sincèrement qu'on peut montrer que Oufoué était tellement obsédé par cette immortalité que probablement il ne pouvait pas concevoir que la Côte d'Ivoire lui survive. C'est ça la tragédie d'un pouvoir, en fait, attribué aux vieux. Et je pense sincèrement que Oufoué ne pouvait pas imaginer que la Côte d'Ivoire survive sans lui. Il ne pouvait pas imaginer que ce pays puisse être là. Et c'est pour ça qu'il a fait plusieurs, révisions constitutionnelles. Et dans la plupart de ces révisions constitutionnelles, en particulier celle de 80, il y a un vice-président. Ce vice-président n'a jamais été élu, n'a jamais été nommé. Ouada a fait la même chose. Il a fait voter un poste de vice-président. Il n'y a pas de vice-président au Sénégal. Et c'est ça, en fait, ce que j'appelle... après Tessie Bakary, l'obsession de l'immortalité et l'impossible transmission du pouvoir. Oufoué ne s'est jamais posé la question de préparer la Côte d'Ivoire à la fin de celui qui a été et qui a prétendu être son fondateur. Il me semble donc que l'intérêt aujourd'hui pour les populations africaines, pour les intellectuels africains, c'est de retourner à ce moment pour essayer de comprendre 50 ans après ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi l'euphorie s'est terminée en une tragédie. Et quelquefois en une tragicomédie. C'est aussi la nécessité de comprendre qu'il ne pourrait y avoir de démocratie en Afrique si les sociétés africaines n'utilisent pas leurs propres ressources pour inventer une démocratie. Alors, qui est conforme à leur histoire, que peut-être la grande question de l'Afrique, ce n'est pas la démocratisation, mais c'est le respect du pluralisme et la nécessité de la tolérance. Pluralisme et tolérance qui sont au cœur de sociétés, qui sont des sociétés ouvertes. Oufoué a considéré qu'une société ouverte ivoirienne devait être construite autour de l'histoire des Baoulés et autour de cette extraordinaire flexibilité baoulé. Aujourd'hui, probablement, on devrait aller plus loin et considérer que l'avenir du continent, c'est probablement le retour à un pluralisme, qui est un pluralisme créateur. Merci.
Oui, bonsoir, professeur. Je passe sur le, vous avez dit vous-même tout à l'heure, je passe sur le fait que j'ai, bon, est-ce que vous pouvez me rassurer, professeur, que c'est une broutille, que Djola ne désigne pas une ethnie, mais une profession, professeur, s'il vous plaît. Et puis l'autre broutille, c'est, je passe sur le fait, les contradictions que vous avez indiquées tout à l'heure de foot, hein, RDA. Le D, c'est démocratie. Il n'en a jamais fait. Ou même le fait, quand il est arrivé, il n'a même pas été capable de changer le nom de son pays, Côte d'Ivoire, là où on trouve les dents d'éléphant. Ce qu'a fait Kwame Nkrumah en prenant le nom de Ghana, puisque ce n'est pas le nom qui manquait. Je passe sur tout ça. Seulement pour vous demander, non seulement il n'a pas, dans le cadre strictement africain, on ne voit pas vraiment ce que vous, même votre conférence le prouve, puisque c'est ivoirien, c'est resté dedans. Voilà, vraiment, il est tourné autour. Pour lui, il n'y avait rien d'autre. Voilà, vous savez ce qui s'est passé à Addis Abeba 63. Hein, il était contre. Et puis, vous avez indiqué qu'il a créé un conseil d'entente pour s'opposer à tout mouvement qui pouvait ressembler au panafricanisme. Son penchant dont vous avez parlé, vous avez annulé vous-même. Il a fait pour raison interne. Comment expliquer il est farouchement opposé à tout ce qui pouvait servir de panafricanisme. Comment, vraiment, il est mort sans supporter l'idée. Non seulement il n'a pas supporté, il a à chaque fois contré toute idée dans ce sens. Je termine. Quand Senghor est mort, Orsena a dit qu'il a servi plus la France que son propre pays. Et quand Bongo est mort, on a dit qu'il a investi plus en France que dans son pays. L'Africain qui vous parle a honte. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose un jour pour M. Ofud Boigny, même si on l'a enterré avec beaucoup, beaucoup de fleurs et des avions? Merci.
En fait, pour la première question, au départ, disons, être Djoula, c'est une profession. Mais c'est une profession qui s'est développée à l'intérieur d'une civilisation spécifique, la civilisation mandingue. Et c'est une profession plus régionale. C'est pour ça qu'il y a eu cette confusion très vite entre les gens qu'on considère, qui sont des migrants, sont les mandingues venant du Mali ou d'autres populations sahéliennes. Mais ils existaient en Côte d'Ivoire. Une grande partie de l'empire de Samori était dans ce qu'on appelle le nord de la Côte d'Ivoire. Mais cette désignation professionnelle est devenue très rapidement une désignation ethnique et revendiquée ethniquement. C'est-à-dire le Djoula, c'est le commerçant, réel ou fictif, c'est le musulman qui vient du Sahel, par opposition aux gens qui sont les gens de la brousse. Et c'est vrai que les Sahéliens ont une vision des gens de la brousse qui leur est propre. Et quelquefois, c'est cela qui a créé énormément de tensions. Mais dans le cas en particulier du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, ce qui est assez étonnant, c'est que les Djoula et les Mossi ont plus tenté de, les Sénégalais aussi, ont plus tenté de s'assimiler au Bété que les Baoulés. Et pourtant, quand, disons, la coalition s'est effondrée, Gbagbo était à un moment capable d'accepter la démarche qui est la démarche des Béguiers. Et c'est ça qui est intéressant. L'autre aspect, vous savez, on a souvent tendance à penser que les chefs d'État africains étaient des valets, des politiciens français. Je ne pense pas que ça soit aussi vrai. Dans la plupart des cas, ces gens qui les ont servis, mais si vous regardez aujourd'hui le débat sur le scandale des valises en France, vous croyez vraiment que ce sont les Africains qui sont plus moralement touchés que les Français? Les hommes politiques africains, dans la plupart des cas, on peut être moralement contre ou non, sont des acteurs politiques et essaient de maximiser leurs ressources. Mais à d'autres moments, et ça, Focard, qui était le grand stratège, le reconnaît, à certains moments, ils ne peuvent rien contre contre les chefs d'État africains. Quand Bongo dit à Sarkozy qu'il voulait casser la France-Afrique, je veux plus de Bokel au ministère de la Coopération, Sarkozy est obligé de le virer. Ils ont des possibilités. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est très clair. Je pense que ce qui explique le plus le refus du fouet d'être dans un cadre plus large, c'est que dans un cadre plus large, il est minoritaire. Vous voyez où Fouet se retrouver en 59. 58-59. Il va se retrouver avec Sékou Touré. Il va se retrouver avec Modibo Keïta. Il va se retrouver avec Mamadou Dia. Il va se retrouver avec Senghor. Il ne va pas être le chef, c'est évident. Et il va se trouver face à des partis très, très bien formés. Et si le processus démocratique est fait, il ne s'en sort pas. Mais il a deux choses avec la France. Comme je disais, il connaît sur le bout des doigts le jeu politique français. Et il sait exactement comment fonctionner. Oufouet est un dignitaire, un notable de la 4e République. Il devient un notable de la 5e République. Et de Gaulle leur offre cet extraordinaire instrument qui est la constitution de la 5e République. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand on retourne dans cette histoire, on se rend compte d'une chose extraordinaire. À la fois en regardant l'Afrique de l'Ouest et la France. Vous savez, au cours de la campagne des primaires du Parti socialiste, Arnaud Montebourg a continué à dire qu'il faut passer à la 6e République. Et vous savez, quand la Constitution de 1958 a été adoptée, Mitterrand a écrit un livre qui s'appelle « Le coup d'État permanent », qui est une critique de la 5e République. Et en fait, cette critique reposait sur une chose simple, c'est que la Constitution de la 5e est une Constitution qui est taillée à la mesure d'un grand homme, physiquement et historiquement de Gaulle. Et tous ses héritiers n'ont jamais pu, en fait, porter ses bottes. Et c'est pour ça qu'il y a une crise, en fait. Et il faut, parce que ce n'est pas une constitution vraiment démocratique. C'est pour ça qu'au Sénégal, on a eu un régime parlementaire proche de la 4e République quand on devient indépendant. C'est pour ça que dans la plupart de ces pays, y compris la Guinée, en fait, le régime n'est pas un régime type 5e République. Mais ça aussi, retourner dans ces années, permet de voir, si vous voulez, les discussions. Parce que Oufouet héritait d'une constitution qui lui donnait le pouvoir absolu, mais Oufouet pouvait toujours compter sur l'armée française. Ça, c'est important. Modibo ne pouvait pas, il s'est retrouvé avec un coup d'État en 68. Et c'est ça qui devient aussi l'autre élément important de la construction, du pouvoir. Mais c'est aussi ça qui devrait être un nouveau débat chez les Africains, que probablement il faudrait arrêter d'avoir des constitutions de type 5e République qui donnent un pouvoir aussi absolu aux chefs d'État. Moi, je défends l'idée qu'il faut que les chefs d'État africains soient élus au suffrage indirect pour casser, en fait, le pouvoir qu'ils s'octroient et qu'ils construisent à partir du pouvoir qu'attribue le pouvoir de la 5e République. Et ça doit être une discussion importante. Donc, Oufouet a fait un choix qui est un choix qui répond à ses intérêts. S'il n'y a pas d'autres questions.
Bonsoir, je vous remercie. À vous entendre, vous semblez montrer une lourde responsabilité du président, du défunt président Oufou-Boigny, sur la situation que la Côte d'Ivoire vit actuellement. Est-ce que ce n'est pas plutôt les héritiers qui n'ont pas su gérer, ou alors qui n'ont pas pu gérer l'héritage, Et puis, deuxième question, une question d'actualité brûlante. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'alliance entre le PDCI et le RDR dans la gestion de la Côte d'Ivoire actuelle? Est-ce que ce n'est pas un retour de la logique de gestion du pouvoir de Fogogne? Merci.
Pour la première question, la réponse pour moi est une réponse très simple. C'est parce que Oufoué n'a pas permis aux Ivoiriens d'avoir une activité citoyenne et d'être capable de s'organiser et d'exprimer leur position, que l'héritage est un héritage qui est contraire à la vision qu'il a eue et de la Côte d'Ivoire et de son rôle politique. Je pense qu'il a compris à la fin de sa vie qu'il avait échoué. Pour votre deuxième question, je pense que là aussi la réponse est simple. En fait, Ouattara a gagné. Pour moi, la Côte d'Ivoire est un exemple extraordinaire, aussi bien dans le passé que dans le présent. Dans le présent, pour une raison très simple, pour deux raisons plutôt. La première, Ouattara a gagné pour une raison, moi je pense. Quand j'ai vu le débat entre Ouattara et Gbagbo, j'ai dit Ouattara va gagner. Et tout le monde me regarde. J'ai dit oui. Pour raison très simple, parce que Ouattara est revenu avec le mythe de Oufoué. Ouattara a dit aux Ivoiriens, après 10 ans de conflits et de problèmes, je ramène Oufoué si vous votez pour moi. Je ramène la paix et la prospérité. Et dans cette situation, il pouvait gagner. Bédié ne pouvait pas, pour d'autres raisons, serait plus long d'en discuter. Mais c'est cela. Est-il possible de recréer cette coalition? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que pour moi, on ne peut pas vivre dans un contexte de paix armée. Et que la seule solution, pour moi, c'est la démocratie et le respect du pluralisme qui permettent aux acteurs d'utiliser les ressources à leur disposition et de compétir démocratiquement. C'est-à-dire parce que c'est cela qui permettrait de faire une chose, que les perdants ne pensent pas que la seule solution parce qu'ils ont perdu, c'est le mettre de feu. Et que ceux qui gagnent pensent qu'ils peuvent perdre la prochaine fois. C'est l'idée que quand on gagne, on tente de... Et là aussi, je redonne l'exemple de mon président. Quand il est élu, la première chose qu'il dit, c'est que le PDS va rester au pouvoir aussi longtemps que le PS. Ce n'est pas ça la question. La question de la démocratie, c'est la capacité de faire du changement de régime une routine. Donc, ce dont on pourrait s'attendre de la part de Ouattara, c'est une capacité, effectivement, à réconcilier les Ivoiriens. Mais réconcilier les Ivoiriens, c'est effectivement de construire une démocratie, une société ouverte, plurielle et tolérante. Je vous remercie.